France Info.
Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour.
Les Français votent dans 10 jours pour les élections européennes. Est-ce que votre sort à Matignon est lié au résultat ?
Quand on s'approche d'une élection, on est toujours extrêmement attentif. Il faut être toujours humble vis-à-vis du résultat d'un scrutin. J'ai le souvenir de beaucoup de femmes et d'hommes politiques, de beaucoup de journalistes aussi, qui ont tendance à faire les analyses du scrutin avant le scrutin. J'ai quelques souvenirs qui me conduisent à être plus prudent en la matière. Donc on verra après le scrutin. Sinon, un Premier ministre, il est à Matignon, au fond, quand trois conditions sont réunies. Le soutien, enfin la confiance du président, le soutien de la majorité parlementaire, et puis des éléments qui sont propres à lui, c'est-à-dire est-ce qu'il est à l'aise avec ce qu'il fait, est-ce qu'il a envie de le faire. J'ai eu l'occasion de le dire. Aujourd'hui, il me semble que ces trois conditions sont parfaitement réunies.
Donc, a priori, vous êtes parti pour rester.
Vous savez, la décision, elle ne m'appartient pas complètement.
Pas
le président
fait,
de la République, il ne vous a pas échappé, avait son mot à dire en la matière. Et c'était un mot important et je respecte évidemment son analyse et ses choix en la matière.
Renaud Dely.
Est-ce que ce scrutin, il peut avoir une incidence sur la politique nationale, sur le cours de la politique gouvernementale ou quel que soit le résultat, rien ne changera ?
Permettez-moi de vous faire une réponse de Normand. Je vais vous dire oui et non. Oui, parce que depuis toujours, les élections européennes sont un moment de démocratie européenne, sont un moment important pour la vie européenne, mais sont en vérité analysées et suranalysées au crible de la politique nationale. Ça a toujours été le cas. Et ce sera encore le cas cette fois-ci. Je ne doute pas que le dimanche soir sur les plateaux, le lundi matin dans les éditoriaux, peut-être même ici dans cette matinale, on fera une lecture nationale du scrutin. Je n'en doute pas. Je le regrette un peu, je vous le cache pas, mais enfin, c'est comme ça. Ça se passera comme ça. Est-ce que ça change totalement les engagements qui ont été pris par le président de la République au moment de sa campagne présidentielle, puis repris après le grand débat ? Est-ce que ça change la détermination de la majorité ? Est-ce que ça change la logique d'ensemble de l'action gouvernementale ? La réponse est non. Donc, vous voyez bien qu'il y a à la fois des éléments de lecture nationaux, et puis il y aura des choses qui se poursuivront, qui s'accéléreront, et qui doivent être faits pour le bien du pays et parce que nous sommes engagés à le faire.
Il y aura un virage le 27 mai au matin en fonction du résultat, bah, si la liste de Marine Le Pen arrive en tête, enfin de Jordan Bardella.
Je ne crois pas. L'action gouvernementale, l'action publique en général, l'action municipale tout autant, exige beaucoup de constance et de cohérence. Parce que c'est par la constance, par la cohérence, par la ténacité aussi, qu'on obtient des résultats. Et donc, très important que l'ensemble des mesures que nous prenons, que nous avons prises, que nous prendrons, s'inscrivent dans cette cohérence. C'est parfaitement le cas. Et je pense que là, c'est une vraie condition d'efficacité.
Pas de changement de cap, quel que soit le résultat.
Le président de la République a indiqué, à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle je suis sûr vous participiez, ou en tout cas que vous avez suivi, quels étaient les engagements qu'il prenait, les éléments sur lesquels il s'engageait. Bon, voilà, tout est dit. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces engagements, ces objectifs soient atteints.
Édouard Philippe, les derniers chiffres du chômage en France sont tombés ce matin. C'est une petite baisse. Baisse oui. légère au oui. premier trimestre. 20 000 chômeurs de moins. Est-ce que vous êtes déçu?
C'est le meilleur résultat qu'on ait depuis 10 ans.
Mais la baisse est nettement moins
oui, c'est le meilleur résultat
forte que ces derniers trimestres.
C'est le meilleur résultat qu'on ait depuis 10 ans, je le redis. C'est une baisse continue du chômage depuis 2 ans. Du chômage taux général. Du chômage des jeunes, qui baisse et qui, lui, en 2 ans, a singulièrement baissé. Je m'en réjouis. Mais quand il y a une bonne nouvelle, je commence par
la prendre. C'est d'abord une baisse, avant que ce soit moins nette.
C'est d'abord une baisse, et c'est bon signe. Et ça veut dire qu'il faut continuer, là encore, avec cohérence, avec constance, avec détermination.
À ce rythme-là, est-ce que vous pensez toujours arriver à 7% de chômage à la fin du quinquennat ?
Je veux que le chômage continue à baisser. Je veux qu'on incite les Français à retourner vers l'emploi. Je veux qu'on les forme de telle façon, et c'est ce que nous faisons, de telle façon que lorsqu'ils ne peuvent pas reprendre un emploi pour des questions liées à des formations, à des compétences, ils puissent le faire.
Pourquoi ?
Il y a des questions de compétences, il y a des questions d'appétence. Il faut jouer sur tous les facteurs, mais faire en sorte de réduire le chômage de masse, qui est une spécificité française par rapport à ses partenaires, à ses voisins, par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni, c'est indispensable, c'est notre objectif.
Et
nous devons nous fixer un objectif de plein emploi.
À quelle échéance ?
Il y aurait rien de pire que vous donner. Vous voudriez que je vous donne
Emmanuel Macron l'a dit. Oui, bon. Il a dit 2025. Il se trouve que c'est dans le quinquennat suivant 2025, ce qui n'a échappé à personne.
Et se donner un peu de perspective et faire en sorte d'avoir une politique constante et cohérente qui permet d'obtenir des résultats.
Vous ne ferez pas l'erreur de François Hollande, c'est ça.
Je vous le confirme. Ce que je constate, c'est que le chômage baisse, c'est que le nombre d'emplois créés.
Pourquoi est-ce que le rythme de la baisse ralentit-il?
Encore une fois.
À vos yeux, pourquoi?
D'abord parce que il vous a pas échappé que le niveau de croissance dans l'Union européenne était plutôt plus faible qu'il n'était il y a un an ou deux ans. C'est général en Europe, c'est-à-dire moins net en France que ça ne l'est en Europe. Il ne vous aura pas non plus échappé qu'il y avait un certain nombre d'éléments d'incertitude dans les perspectives économiques. On parle beaucoup des guerres commerciales auxquelles peuvent se livrer les grands blocs continentaux, ce qui a d'ailleurs tout à voir avec la question européenne, à laquelle on viendra peut-être, j'espère.
Tout de suite.
Notre objectif, c'est faire en sorte que le travail paye, c'est faire en sorte d'inciter et de permettre le retour au travail, et donc d'avoir une diminution constante du taux de chômage, faire en sorte qu'on crée beaucoup plus d'emplois, et ne pas se contenter d'une fatalité selon laquelle en France, on aurait un chômage de masse et ça ne serait pas grave.
L'Europe, justement, René.
Alors justement, les élections européennes, vous disiez tout à l'heure qu'on certains auraient peut-être une lecture nationale du résultat au 27 mai au matin. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu de votre faute, et plus précisément de la faute du président de la République, parce que le chef de l'État s'est engagé dans la campagne. On voit maintenant d'ailleurs des affiches, 60 000 affiches qui ont été tirées avec Emmanuel Macron tout seul, sans votre candidat, d'ailleurs sans Nathalie Loiseau, présente sur cette affiche. Est-ce que c'est pas vous, l'exécutif, qui est en train de faire de cette élection un référendum pour ou contre Emmanuel Macron?
Je crois qu'il faut dire les choses avec un peu de perspective. Le fait que le président de la République qui a mis l'engagement pro-européen au cœur de sa campagne présidentielle, qu'il le dit de façon systématique, qu'il le porte depuis deux ans. Le fait qu'il soit engagé dans une stratégie européenne, le discours de la Sorbonne, dans un exercice de conviction européen, pour reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués hier, est évident et assumé. Et c'est très bien ainsi. Je ne crois pas que ce soit très différent, par exemple, des choix qu'avait fait le président Sarkozy au moment de l'échéance européenne lorsqu'il était président. Je crois qu'il y avait à l'époque aussi des affiches. Je crois qu'à l'époque, il était aussi seul. Et je crois qu'à l'époque, il avait aussi montré son engagement très fort dans une campagne qui est profondément européenne, mais dont, encore une fois, depuis toujours, on sait qu'elle donnera lieu à une lecture nationale. Donc moi, je n'ai pas envie de polémiquer sur ces sujets. Je pense que le président de la République assume son engagement pro-européen. Il sait que c'est une élection décisive pour l'Europe. Il le dit, il le porte, et c'est très bien ainsi.
On poursuit dans un instant, si vous le voulez bien. Édouard Philippe, le temps du rappel de l'actualité, 9h-20. Si vous nous rejoignez, voici David Dauba.
À 10 jours des élections européennes, l'ambiance n'est pas au beau fixe entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Dans une interview hier, la chancelière évoquait des débats intenses et des mentalités différentes. Réponse du chef de l'État, nous devons accepter les désaccords momentanés pour construire un compromis. Le nombre de chômeurs continue de baisser en France. Selon l'INSEE, au premier trimestre, le taux de chômage s'établit à 8,7% de la population active. Ça représente près de 20 000 personnes de moins inscrites sur les listes. Le conseil des prud'hommes d'Amiens rend, et ce sera à 14h, sa décision pour les 800 ex-Goodyear. Ils contestent le motif économique de leur licenciement, c'était en 2014. L'avocat de la CGT réclame des indemnités allant de 2 à 4 ans de salaire pour chacun des ex-ouvriers. Après 48 heures de garde à vue, Frédéric Péchier fixé sur son sort dans la journée, l'anesthésiste de Besançon, poursuivi depuis 2017 pour 7 empoisonnements présumés, pourrait être une nouvelle fois mis en examen, cette fois-ci pour d'autres cas. Et puis deux films en compétition aujourd'hui à Cannes, tout d'abord Le Dernier Ken Loach, et puis à suivre également Atlantique de la jeune française Mathy Diop.
Édouard Philippe, invité de France Info jusqu'à 9h. Vous avez utilisé, il y a quelques jours, Édouard Philippe, une expression étonnante. Vous avez dit que vous n'étiez pas de la droite Trocadéro. Qu'est-ce que c'est que la droite Trocadéro? Référence évidemment au meeting de François Fillon dans la dernière ligne droite de sa campagne.
Oui, j'ai utilisé ce terme parce que la réunion publique en extérieur, sur la place du Trocadéro qu'avait organisé François Fillon, avait été un des moments de cette campagne présidentielle.
Au moment où on pensait peut-être qu'il allait renoncer et qu'il a dit « je continue ».
Et j'ai d'ailleurs été surpris parce que j'ai vu un certain nombre d'acteurs politiques à droite considérer que c'était une insulte.
Pas du tout. C'est une quoi insulte. La droite Trocadéro?
C'est une partie de la droite, à mes yeux parfaitement respectable, qui a choisi de se rassembler sur le Trocadéro en 2017, lorsque François Fillon, qui avait dit que s'il était mis en examen, il se retirerait, avait finalement choisi de rester. C'est la partie de la droite qui, à l'époque, expliquait qu'il fallait augmenter la TVA, supprimer complètement les emplois aidés, les supprimer complètement, diminuer de 500 000 le nombre de fonctionnaires, et qui pourtant, 6 mois après l'élection présidentielle, critiquait vertement le gouvernement lorsqu'il diminuait simplement de 200 000 les contrats aidés. Vous voyez, c'est une droite qui est parfaitement respectable. J'ai beaucoup de gens avec qui j'entretiens des relations amicales dans cette droite. Mais c'est une droite qui se paye de mots. C'est une droite, je ne sais pas si c'est la droite du Trocadéro, mais c'est souvent la droite des mots.
C'est la droite de Laurent Wauquiez.
Qui aime manier des symboles, qui aime manier des icônes, qui aime manier des grands engagements, mais qui, lorsqu'elle est confrontée au choix, est nettement moins là. La réforme de la SNCF, elle a été faite par ce gouvernement, par cette majorité. La réduction du nombre de contrats aidés, elle a été faite par ce gouvernement, par cette majorité. Le fait qu'en 2018, pour la première fois depuis plus de 30 ans, la dépense publique de l'État ait baissé en volume, c'est ce gouvernement et cette majorité qui l'a assumé.
On a l'impression, Edouard Philippe, que vous reniez votre famille politique. Mais que vous reniez une partie de ce qui a été vous pendant des années.
Mais en aucune façon.
Non.
En aucune
vous êtes toujours de droite ou pas?
Écoutez, je suis attaché à la liberté. Je suis attaché...
Tout le monde l'est. Beaucoup de gens le savent.
Moi, je suis très attaché à la liberté.
Est-ce que vous êtes toujours de droite?
Je suis attaché à l'ordre. Tout ce que je suis fondamentalement, et je sais d'où je viens, me renvoie et me classe à droite. Alors, j'observe que ceux qui sont beaucoup plus à droite que moi expliquent que je suis à gauche, et ceux qui sont beaucoup plus à gauche que moi expliquent que je suis à droite. Je vais vous dire, personnellement, je m'en fiche un peu.
Mais vous revendiquez toujours cette étiquette aujourd'hui ?
Je suis pas... Je sais, quand j'ai été élu et que j'ai fait des campagnes, je sais sous quelle étiquette je me présentais. Quand j'étais député, je me présentais sous une étiquette partisane. Quand j'étais maire, je me présentais surtout sur mon étiquette à moi.
Et quand vous êtes Premier ministre ?
Mais je suis à l'aise avec cette majorité. Et j'essaie non
vous
pas
vous a pas fondu dans le macronisme.
Et j'essaie non pas de me payer de mots, mais j'essaie de transformer les choses, d'apporter du sérieux dans la conduite des affaires, d'assumer des engagements qui ont été pris au moment des élections présidentielles et des élections législatives et de les assumer pleinement et d'être en accord avec ma conscience et de faire passer, pardon de le dire avec une formule qui peut sembler grandiloquente, mais de faire systématiquement passer les intérêts de mon pays avant les considérations relatives au parti. Et je trouve que cette attitude, qui, je comprends très bien, peut chagriner un certain nombre de militants,
de vos anciens amis aussi,
qui ont une approche parfois clanique de la politique, est parfaitement comprise par les Français, qui savent que ce qui est plus important, c'est le pays que le parti.
Voilà. Alors, justement, venons-en à quelques dossiers économiques qui concernent le pays. Parmi les annonces du président de la République au sortir du grand débat, il y a eu l'annonce d'une baisse d'impôt sur le revenu de l'ordre de 5 milliards d'euros. Qui sera précisément concerné par cette baisse? Les deux premières tranches, la première tranche de contribuables qui payent l'impôt sur le revenu, et quel sera le montant, l'ordre de cette baisse pour ces contribuables?
Alors, il ne vous a pas échappé que c'est une annonce d'abord importante, parce que 5 milliards de diminution d'impôt sur le revenu, c'est pas rien. C'est beaucoup d'argent et ça va se voir et ça va se sentir et c'est très bien. Accessoirement, comme le prélèvement à la source fonctionne bien, ça se sentira dès lors que ça aura été voté dans le plan, dans le
dès janvier
projet
prochain,
de loi de finances.
Ça va se sentir pour qui?
Ça va se sentir pour tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu et évidemment pour tous ceux qui entrent dans l'impôt sur le revenu. Les modalités techniques seront fixées au moment du projet de loi de finances. J'ai indiqué que j'attendais des propositions précises qui me seront faites par le ministre de l'Action et des Comptes Publics et par le ministre de l'Économie et des Finances.
La baisse sera plus importante, monsieur le Premier ministre, pour
l'objectif,
les classes moyennes que pour les classes supérieures.
L'objectif, c'est de faire en sorte que les classes moyennes, ceux qui travaillent, puissent ressentir plus fortement, voire très fortement, la baisse de l'impôt sur le revenu.
Donc surtout les deux premières tranches ?
Vous verrez, ce sera évidemment, si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est effectivement plutôt sur les premières tranches, bien entendu, et je pense que c'est à la fois juste et efficace de procéder de la sorte, mais les modalités techniques de cette baisse d'impôt seront discutées au moment du PLF, du projet de loi de finances, et décrites et financées à ce moment-là.
La taxe d'habitation, Edouard Philippe, on n'y comprend plus grand-chose. Est-ce qu'elle sera bien supprimée pour tous les Français, y compris les plus aisés, d'ici à la fin du quinquennat ?
Elle sera supprimée pour tous les Français. Sa suppression a déjà commencé.
Pour 80% des Français.
80% des Français qui payaient la taxe d'habitation ont vu leur taxe d'habitation diminuer d'environ un tiers l'année dernière. Ils verront leur taxe d'habitation diminuer d'un autre tiers cette année, puis d'un tiers, du dernier tiers l'année prochaine. Donc ça, c'est en route. Reste 20% de ceux qui payaient la taxe d'habitation, qui ne sont pas concernés par les baisses d'aujourd'hui, mais qui le seront.
En quelle année, 2021 ?
L'idée, c'est de faire en sorte, on prendra un petit peu de temps, on a supprimé la 80% en trois fois. On supprimera les 20% suivants en plusieurs fois. Mais l'idée, c'est clair, c'est de supprimer la taxe d'habitation et de la remplacer pour financer l'action des communes, laquelle est évidemment très importante, par une ressource stable. Ce sera l'objet de discussions très intenses avec les collectivités territoriales, de façon à ce que dans le projet de loi de finances, là encore, à la fin de l'année, il puisse y avoir l'ensemble de dispositifs clairement établis pour que les communes, à partir de l'année prochaine, à partir de 2020, à partir des élections municipales, sachent parfaitement quel est leur niveau de
ressources. Et la redevance audiovisuelle, monsieur le Premier ministre, votre ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a plaidé pour sa suppression, précisément parce qu'elle est adossée à la taxe d'habitation.
Alors, la question de la redevance, compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation, je suis désolé, c'est un peu
technique. Elles sont adossées, on reçoit le même papier en même temps.
C'est sur le même papier. Donc, compte tenu de la suppression à terme de la taxe d'habitation, il faudra qu'on se pose la question du financement de l'audiovisuel et peut-être de la redevance.
Donc de la suppression de la redevance.
Mais cette question n'est pas d'actualité, on ne la pose pas aujourd'hui, elle n'est pas d'actualité puisque cette taxe d'habitation continue à exercer. Donc l'instrument qui permet de collecter la redevance continue à exister. Franchement, je reconnais que... Pour un matin à 8h45, ça fait beaucoup de
je crois que ce sont des questions qui intéressent pas mal de monde.
Mais à juste titre, c'est l'argent des Français.
Autre question, c'est
tout à fait important. Ce que je veux dire encore une fois, c'est que les prélèvements sur les ménages, les impôts que payent les ménages, vont diminuer. Ils ont commencé à diminuer, ils vont diminuer massivement en 2019, massivement. Et ça va se poursuivre parce que faire en sorte que nos concitoyens qui travaillent, voient leur pouvoir d'achat augmenter est un objectif extrêmement clair et extrêmement ferme du gouvernement.
Ça fait beaucoup de dépenses, ou plutôt ça fait moins de recettes pour l'État, mais ça fait pas beaucoup d'économies. Quelles économies? Est-ce qu'on laisse filer la dépense publique? On a appris hier par un rapport de la Cour des comptes que finalement le nombre de fonctionnaires avait très légèrement augmenté en 2018, de l'ordre de 200 postes.
Parce que c'est vrai que sur un certain nombre de ministères, nous augmentons les effectifs. Nous avons décidé de le faire pour la police, pour la gendarmerie, pour la DGSI. En matière de lutte contre le terrorisme. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés d'ailleurs d'augmenter ces effectifs? Parce que pendant très longtemps, ils ont été très fortement baissés. Faut pas l'oublier.
Donc nous les augmentons parce que nous considérons. Pendant le quinquennat, il est abandonné.
Nous les augmentons parce que nous considérons qu'il y a des priorités, qu'il y a des urgences. Ensuite, nous voulons transformer le fonctionnement de l'État. Nous voulons faire des économies.
L'objectif,
sur le fonctionnement de l'État,
qui était celui
et la
président.
Conséquence, ce sera la réduction du nombre de fonctionnaires. Nous n'en faisons pas
avec
un préalable,
quel chiffre,
nous en faisons une conséquence de la transformation.
De quel ordre ?
Et d'ailleurs, c'est bien plus intéressant de se poser la question comme ça. Parce que on peut afficher tous les objectifs. Vous savez, pendant les campagnes, peut afficher tous les objectifs. Et c'est important parce que ça crée des équilibres. Bon, alors certains affichent des objectifs extrêmement ambitieux.
120 000, c'était trop.
Certains affichent des objectifs extrêmement ambitieux, sans dire comment est-ce qu'on va les faire. Nous allons transformer l'action publique. Nous avons commencé. Vous me permettez d'en donner un exemple, parce que votre question est importante. Je viens de vous indiquer que nous allions supprimer la taxe d'habitation. Nous allons la supprimer. Dès lors qu'elle est supprimée, on peut imaginer que les postes de fonctionnaires, non pas les agents ils vont rester agents, mais les postes de fonctionnaires qui étaient affectés à la collecte, au contrôle de la taxe d'habitation, par définition, nous n'en avons plus besoin. Et donc, comme cela, on peut faire des économies.
Il nous reste beaucoup de questions à aborder, Édouard Philippe, les 80 km/h, la question de la PMA également, on va le faire dans quelques instants si vous le voulez bien, il est 8h51. David Dauba, tout d'abord pour le rappel de l'actualité.
Sur France Info, il y a quelques instants, Édouard Philippe se félicite de voir les chiffres du chômage continuer de baisser. Il faut continuer avec cohérence et constance, affirme le Premier ministre. En affichant un taux de 8,4%, la France retrouve désormais un plus bas depuis 10 ans. Selon l'INSEE, au premier trimestre, 20 000 personnes ont retrouvé un emploi. Déjà poursuivi pour 7 empoisonnements, la justice soupçonne Frédéric Péchier, anesthésiste de Besançon, d'être à l'origine de nouveaux cas. Sa garde à vue, qui a commencé il y a 48 heures, se termine dans quelques minutes. Il pourrait une nouvelle fois être mis en examen. Une nouvelle personne interpellée hier dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Elle est soupçonnée d'avoir fourni une arme aux terroristes. Le 11 décembre dernier, il avait tué 5 personnes et fait 11 blessés. Et puis c'est la loi anti-avortement la plus stricte de l'histoire des États-Unis. Elle vient d'être promulguée en Alabama, État particulièrement conservateur. Même en cas de viol ou d'inceste, le texte interdit la quasi-totalité des IVG.
France Info.
Édouard Philippe, vous avez été à l'origine du passage aux 80 km/h sur les routes. Est-ce qu'il y aura des assouplissements d'ici à la fin du quinquennat?
Le président de la République en a parlé et la majorité s'en saisira. Quelques remarques très simples. Première chose, cette mesure peu populaire, qui a suscité incompréhension et parfois colère. Permettez-moi juste de commencer par remarquer que c'est une politique publique qui a été décidée par l'État, qui a produit des effets. En 2018, nous avons eu, notamment à cause de cette mesure, pas seulement, mais notamment à cause de cette mesure, la meilleure année en matière de sécurité routière.
Ça veut
dire
que si c'était à refaire, vous le referiez?
En général, quand je prends une décision, je l'assume.
Il n'y a aucun regret?
Aucun. Quand je prends une décision, je l'assume. Et les gens qui n'assument pas leur décision, il faut qu'ils fassent autre chose.
On peut aussi dire, je me suis trompé, j'ai entendu la colère.
Je n'ai aucun problème à me dire que je me suis trompé quand je pense m'être trompé.
Là, c'est pas le cas.
Mais assumer une décision, c'est aussi important quand on est un responsable public. Cette décision, elle a produit des effets. Je m'en réjouis. Et d'ailleurs, pas seulement moi, tous les Français doivent s'en réjouir. Parce que diminuer le nombre de morts, diminuer le nombre de blessés sur les routes, c'est une bonne chose.
Donc on ne change rien.
Deuxième chose, cette question s'est invitée dans le débat public. Elle a suscité des questions, des incompréhensions. Et le président de la République nous a invités à trouver une solution permettant à la fois de concilier les impératifs de sécurité routière, mais de l'appliquer avec plus de souplesse. Je crois que le terme qui a été utilisé, c'est plus d'intelligence pratique. Très bien. Les sénateurs, au moment de l'examen sur la loi d'orientation de mobilité, ont fait une proposition. Celle consistant à dire que, localement, les préfets et les présidents de conseils départementaux pourraient s'affranchir de cette limite de 80 km/h et fixer une limite supérieure, sans d'ailleurs, je crois, la limiter complètement. Le texte est désormais à l'Assemblée nationale.
C'est une bonne idée, c'est la
le
bonne
texte
piste.
Est désormais à oui. l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État les a prises, pour lui-même. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient. Mais je souhaite que dans le texte, cette capacité, cette faculté soit systématiquement assortie de mesures qui permettent, ou d'examens qui permettent de garantir le plus haut niveau de sécurité routière possible. Pourquoi ? Parce que je suis attaché à ça. Je suis convaincu que les présidents de conseils départementaux le sont aussi. Mais ce sont des décisions qui sont lourdes, qu'il faut assumer et qu'il faut assumer en conscience.
Le président de la République a pris l'engagement d'étendre la PMA à toutes les femmes au cours de son mandat. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui attendent cette réforme que ce sera effectivement pour cette année, quand le texte sera présenté, dans le cadre donc de la révision des lois bioéthiques?
Moi j'ai eu l'occasion de dire, et d'ailleurs je peux vous dire que nous travaillons activement sur la rédaction d'un projet de loi, j'ai eu l'occasion de dire que cet engagement pris par le président de la République, il m'appartenait de faire en sorte qu'il soit tenu. Et donc nous préparons un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres dans le courant de l'année. C'est
dans
mon objectif, je l'ai indiqué.
Avant l'été,
oui. C'est l'objectif que je me suis fixé.
Quand l'année, ça peut être en novembre, en décembre.
J'ai dit, et je redis à votre micro, que mon objectif, c'est de présenter un texte avant l'été sur ce sujet.
La PMA se fera, et tant pis pour la droite du Trocadéro.
Avant les vacances.
Avant les vacances. Tant pis pour la droite du Trocadéro.
Non, parce que l'été, ça commence le 21 juin.
Ça commence
avant les vacances d'été, de présenter un texte qui permettra de tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République. Mais on parle beaucoup de la PMA, c'est un sujet très intéressant, très sensible pour certains.
Vous y étiez plutôt hostile, d'ailleurs, à l'origine, vous, à titre personnel.
Oui.
Vous vous êtes laissé convaincre.
J'ai beaucoup rencontré, beaucoup lu, et j'assume parfaitement, voyez-vous, tout à l'heure vous m'avez posé la question, d'évoluer, comme d'ailleurs, me semble-t-il, la société française évolue sur ces sujets, comme d'ailleurs, me semble-t-il, toute une série de gens qui, à l'époque, étaient très opposés au mariage pour tous et qui aujourd'hui n'en parlent plus, à juste titre. Donc nous présenterons ce projet de loi. J'indique juste...
Elle sera remboursée par la Sécurité sociale.
Pardon. J'indique juste que dans ce projet de loi sur la bioéthique, il y a des questions bien plus complexe encore que la question de la PMA. Bien plus complexe techniquement, juridiquement, peut-être même philosophiquement, éthiquement, et que ce sera, je l'espère, un très beau débat parlementaire qu'il faut aborder sans volonté de cliver, en expliquant et ensuite en assumant.
Elle sera remboursée par la Sécurité sociale.
Vous verrez le projet de loi.
C'est pas tranché.
Non, vous verrez le projet de loi. Encore une fois, je comprends votre souci d'avoir la petite phrase.
C'est pas une petite phrase, savoir si la PMA va être remboursée, c'est un symbole fort.
Une information.
Je sais. Mais moi, ce que je veux, c'est présenter un texte cohérent, pensé, réfléchi, qui tiendra les engagements pris par le président de la République. Ce sera fait, je vous l'ai dit, avant les vacances d'été. Et je pense que c'est très bien de prendre le sujet au sérieux et de le présenter complètement le moment venu.
Édouard Philippe, trois journalistes ont été convoqués récemment et entendus par les services de renseignement pour avoir publié des révélations sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça vous semble normal ?
C'est toujours très délicat. Je comprends très bien la volonté des journalistes d'aller chercher l'information et de présenter l'information à leurs lecteurs ou à leurs auditeurs. Et c'est très respectable et c'est une condition de la démocratie. Et donc vous ne me verrez jamais joindre ma voix au concert de ceux qui critiquent les journalistes pour cela. Mais à l'endroit où je suis, aux responsabilités que j'exerce en tant que Premier ministre, je dois aussi faire respecter le droit et notamment toute une série de dispositions relatives au confidentiel, voire au secret défense.
Le secret des sources est également inscrit dans la loi.
Mais je ne vous dis pas le contraire. Voilà. Mais le secret défense l'est aussi.
Vous pensez qu'ils ont fait courir un risque en publiant ces documents ?
Je ne pense à rien.
Ce qui justifierait leur audition ?
Je ne suis pas là pour justifier telle ou telle audition. Je suis là pour dire qu'il y a des sujets où le confidentiel ou le secret défense, ça existe et qu'il appartient, il est vrai, au gouvernement, à l'ensemble de l'administration, à l'ensemble des pouvoirs publics, de respecter et de faire respecter ce secret.
C'est pas une forme d'intimidation, ils dénoncent une forme d'intimidation sur la presse et sur l'exercice de leur travail.
D'abord, je ne crois pas que ça les intimide. Et ensuite, ça n'est pas fait pour intimider.
Il nous reste quelques instants seulement, Édouard Philippe, réponse courte, si vous le voulez bien. En juin, La République En Marche va désigner...
J'ai toujours du mal pour les réponses courtes.
Ah bah, c'est pour ça que je vous préviens avant.
Là, vous allez y arriver.
En juin, La République En Marche va désigner ses candidats pour les municipales. Est-ce que vous avez entièrement fermé la porte à une candidature à Paris ?
Alors, je ne vais pas vous faire une réponse courte, parce que je voudrais vous expliquer que je suis toujours, non pas exaspéré, mais sidéré par le fait que personne n'apprend rien du fonctionnement de nos institutions. Moi, je suis Premier ministre. Mon objectif, c'est de tenir les objectifs qui ont été fixés par le Président de la République. C'est de faire en sorte que l'on puisse transformer ce pays. C'est de faire en sorte qu'on aborde la campagne européenne et l'élection européenne de la meilleure des façons possibles. Donc, ce soir, je serai à Angers. Demain, je serai à Toulon.
Et dans 2 ans, vous ne serez pas à la mairie de Paris.
Lundi, je serai à Vesoul. Oui. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que la liste que je soutiens obtienne le meilleur score possible. Le meilleur score possible. Et ensuite, mon deuxième objectif, c'est de faire en sorte que les engagements pris par le président de la République soient tenus.
On prend les matchs les uns après les autres, comme on dit dans le foot, mais c'est pas entièrement exclu.
Et pour le reste, rien n'est exclu. Bien quand je vous en parlerai.
Merci à vous. Merci à vous, Édouard Philippe, Premier ministre, était ce matin l'invité de France Info. Dans une poignée de secondes, il sera 9h.